like to use Mega Upload.
Yeah, I like Mega Upload.
I like Mega Upload.
I love Mega Upload.
I love Mega Upload.
I love Mega Upload because it moves fast, just like I like it.
M-E-G-A, upload to me today. Send me a file. Mega Upload.
Mega.
Mega Upload.
Mega.
M-E-G-A, upload to me today. Send me a file. Mega Upload.
Users 1 billion per day, 50 million. 4% of the internet. Get the Mega Manager. It's 10 times faster.
Bonjour, bienvenue sur notre chronique Le Bité et le Couteau du Tétalab. Donc là, on vous a encore trouvé un générique. Super tip top avec la chanson Méga de Méga Upload. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Méga Upload. Donc avant de commencer sur Méga Upload, on va rappeler qu'on a un pad disponible à l'adresse canalsud.tetalab.org. Et en fait, c'est un éditeur de texte collaboratif qui vous permet de poser des questions et à nous de mettre des liens. Vers des infos, des vidéos, tout ça, tout ça. Donc, on va commencer, petite info rigolote, sur le site du gouvernement pour, déposer plainte. Une fois que vous avez déposé plainte, le site est très fier de vous annoncer qu'il est arrivé à détecter votre adresse IP. Comme ça, on sait qui a déposé plainte et on pourra vous retrouver si vous faites le rigolo. Mais en fait, à chaque fois, on s'aperçoit qu'on tombe exactement sur la même adresse qui doit être de type 192.168.0 et quelques. Et en fait, ils sont très fiers d'annoncer qu'ils ont détecté leur propre adresse IP, quoi. Donc en fait, ils ont l'adresse IP de leur serveur sortant, quoi.
Alors pour préciser au niveau technique, les adresses 192.168 sont des adresses privés, donc sont réservés dans les ensembles des adresses IPv4 pour un usage à la maison. Donc c'est pour ça que toutes vos box et le site du gouvernement utilisent ces adresses-là, qui sont définies dans la Request for Comment numéro 1918.
C'est même par cœur.
Voilà.
Tout le monde a la même adresse IP, du coup.
Ouais. Voilà. Mais celles-là, elles ne sont pas sur Internet, donc elles sont juste dans votre maison ou dans votre entreprise.
Ça ne sert absolument à rien.
Voilà, petit fail du gouvernement, comme d'habitude. On rentre dans le sujet, on va parler de Mega Upload. Donc, c'était quand ? C'était dimanche. Mega Upload, gros site de téléchargement et de streaming, a été fermé par le FBI. Donc, beaucoup de personnes qui utilisaient ce service sont tombées sur le cul. Donc, alors pour revenir un peu sur Mega Upload, ça a été créé par Kim Schmitz, c'est un Allemand, qui a plusieurs noms. Après, il s'appelait Kim Tim Jin, et la dernière fois, il avait changé de nom pour Kim.com. Donc, c'est un gars un peu mafieux qui s'est fait attraper pour détournement d'argent, pour abus sur au niveau de la bourse. Il a détourné de l'argent, enfin un type pas très net.
Ça fait partie de son aventure Mega Upload ou c'était avant ?
Non, c'est avant de
avant encore.
Retracer le personnage un petit peu. Et donc en fait, il est parti à Hong Kong et c'est là où il s'est fait appeler Kim.com et où il a monté en fait Mega Upload. Donc Mega Upload, c'est plein de sociétés écrans qui sont domiciliées à Hong Kong. Donc presque tout le monde connaît Mega Upload, hein. On s'en sert pour déposer des fichiers et les mettre à disposition des autres. Donc l'utilisation de base, c'est mettre des fichiers piratés de vidéos, de films, tout ça. Mais bon, on a une utilisation, plein d'entreprises utilisent ce service pour déposer des bases de données.
Nous-mêmes, on l'utilise pour.
C'est vrai, on avait.
Pour transférer des émissions qu'on a nous-mêmes réalisées, ce qui est complètement légal.
Voilà. Donc, à la base, c'est un service qui est complètement légal, comme le P2P est complètement légal. C'est l'utilisation qui en est faite qui est illégale. Donc, bon, mais il y a des gens qui partageaient leurs photos et du jour au lendemain, mais ils ont tout perdu. Et d'ailleurs, si vous allez dernièrement sur le site Vie de Merde, on a plein de gens qui sont dégoûtés parce que il y a des gens qui disent, je m'étais dit que j'allais payer l'abonnement premium à vie, qui coûte $200, je crois. Et le jour d'après, boum, ça tombe. Ou d'autres personnes qui ont perdu leur mémoire parce que leur disque dur a crashé. La seule sauvegarde, c'était sur Mega Upload. Donc Mega Upload, eux, ils se rémunéraient sur la pub, sur les 45 secondes qu'il fallait attendre pour télécharger un fichier, et sur les comptes premium. Et en fait, ils ont eu un pic d'activité quand il y a eu toutes les lois contre le P2P qui sont sorties, et grâce, bien sûr, en France, à Adopi. Les gens n'ont pas arrêté de télécharger, ils sont simplement allés ailleurs. Donc, dans l'histoire Mega Upload, il y a les ayants droit, Universal, tout ça. Bon, forcément, ils sont pas très contents. Ils estiment à $500 millions le manque à gagner à cause de Mega Upload. Donc, ils ont saisi la justice. Le FBI s'en est mêlé. Ils ont monté un dossier il y a un bon moment. Et là, dimanche, ils ont fait fermer Mega Upload. En fait, ils n'ont pas physiquement arrêté les serveurs. Ils ont retiré ce qu'on appelle les DNS et Domain Name Server. En gros, ce qu'on parlait de l'adresse IP, quand vous tapez megaupload.com sur votre navigateur, en fait, il y a des serveurs aux USA qui vont traduire ce nom de domaine, ce qu'on appelle, en adresse IP.
Ces serveurs qui traduisent, c'est des serveurs qui appartiennent au domaine public, entre guillemets.
Non, du tout. En fait, tous les noms de domaine en .com sont gérés par une boîte américaine qui s'appelle Verisign.
Tous ?
Tous les .com, si je ne dis pas de bêtises. Après, les autres, je ne me souviens plus, mais c'est pas une boîte privée, quoi.
D'accord.
Donc, l'information importante, c'est que de toute façon, c'est sous juridiction américaine, le .com. Hein. Autant le .fr est délégué à la FNIC en France, par exemple, donc il établit sa propre politique. Autant même les sociétés françaises qui ont .com, la base juridictionnelle de l'existence du domaine, elle est américaine.
Voilà, donc en aparté, si les Américains veulent éteindre Internet, ils ont le pouvoir de le faire, quoi. Donc on a souvent lu qu'en fait leurs serveurs étaient cachés à Hong Kong ou dans des pays, des paradis fiscaux, mais non, en fait leurs serveurs ils étaient aux USA, et après il y avait des serveurs un peu plus près des utilisateurs à Amsterdam ou à Paris. Donc, tout ce qu'on a pu entendre, c'est que c'était une entreprise mafieuse et que c'était bien fait pour eux qu'ils aient été fermés, et que King.com c'était un vilain. Mais après, bien sûr, il y a Anonymous qui s'en est mêlé, qui ont essayé de faire tomber des sites du FBI. Il y a aussi le site de l'Élysée, puisque Sarkozy s'en est félicité de l'arrêt de Mega Upload. Et en fait, si on gratte un peu, juste avant ça, personne n'en a parlé, ni les médias. Mega Upload était censé lancer une nouvelle offre qui s'appelait Megabox. Et en fait, ça aurait été une offre légale en passant par des comptes, ce qu'ils appellent premium. Et en fait, ils proposaient aux artistes de leur reverser 90% des revenus générés par leur plateforme. Donc, ce qui est énorme, je pense pas que Universal reverse autant à ses artistes. Et donc, ils seraient.
Concurrencer directement sur le terrain des labels, en fait.
Tout à fait. Et puis aussi proposer une offre alternative qui passe pas par les majors, avec les artistes. Et en fait, là où l'idée était sympathique, enfin l'idée était maligne, c'est que ils proposaient aussi de rémunérer les artistes qui mettaient leurs œuvres en téléchargement libre.
D'accord.
Et aussi, ils proposaient aux gens de pouvoir télécharger les œuvres gratuitement s'ils utilisaient en fait un logiciel qui s'appelle MegaKey. Et en fait, ce logiciel qu'on surfe sur Internet aurait permis en fait de remplacer toutes les pubs qu'on a sur les pages web par des pubs provenant de Mega Upload.
D'accord.
Donc en fait, eux, ils auraient été une régie publicitaire et bah, toutes les pubs d'Internet hein, auraient été remplacées par les leurs. Donc là, j'imagine
le jackpot.
Ouais, j'imagine bien que toutes les sociétés les ayant droit, bah, ça ne leur a pas plu. Bon, après, je ne sais pas trop si c'est à cause de ça, mais bon, ils ont mis plus de moyens pour faire tomber Mega Upload que par exemple Wikileaks quoi. Wikileaks au final ils bah, ils sont pas arrivés tout à fait à faire tomber Wikileaks quoi.
D'accord, mais c'est vrai que Mega Upload c'est des milliards de dollars quoi.
J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des milliards de milliards de dollars. Ouais. Ouais, le Kim.com là s'est acheté il était parti en Nouvelle-Zélande, s'est acheté une baraque à 30 millions de dollars. En fait, la baraque la plus chère de Auckland en D'accord. Nouvelle-Zélande. Quoi. Bon, il avait des Ferrari, des, enfin, bref, quoi.
Des jets privés.
Et sur, leur, sur l'acte d'inculpation, on peut voir le nombre de voitures qui ont été saisies pendant l'arrestation du FBI. Ouais,
il avait nous rêver.
Il avait même une Rolls-Royce Phantom. Ça, c'est de la belle bagnole. Quoi.
Voilà, il y a eu 175 millions de dollars qui ont été saisis directement, une quarantaine de comptes en banque dans la plupart des pays du monde, une vingtaine de voitures de luxe, et une sculpture d'Anonymous, et, différents trucs.
Oui, le personnage était assez bizarre parce que c'était après un gros geek. Récemment, on a appris en fait qu'il était numéro un mondial sur un jeu vidéo Modern Warfare, où il y a des vidéos où on le voit jouer pendant 4 jours d'affilée à un jeu vidéo. Donc, un mec assez bizarre, quoi.
Oui.
Mais bon, après, en fait, je dis tout ça, mais le plus grave, c'est pas l'arrêt de Mega Upload. Hein. De toute façon, on ira ailleurs. Les gens iront ailleurs. Il y a d'autres services équivalents à Mega Upload. Non, le problème, c'est cette coupure brutale. C'est Mega Upload, au final, c'est un moyen d'échange pour les gens, un moyen d'expression. Et donc, les USA, sans jugement ni rien, ont coupé des millions de gens d'un moyen de communication. Quoi.
Et ça rentre dans un contexte assez particulier, la semaine dernière, ou le mercredi dernier, non ? Je ne sais pas si tu veux en parler, Florent.
Non.
Ou mercredi dernier, donc il y a eu une action anti-SOPA. Donc SOPA, c'est une loi qui a été prévue par le gouvernement américain pour pouvoir contrôler Internet aux États-Unis. Et donc, un des buts de cette loi, c'était de pouvoir fermer des sites de la même façon, enfin, un peu la même façon qu'ils se sont servis pour Mega Upload.
Mais sans passer par la case tribunal.
Voilà, sans passer par la justice, sans monter de dossier, sans. Voilà.
En fait, tous les géants du net, comme Google, YouTube, Facebook, Reddit, enfin plein de gros sites, ont été contre parce qu'en fait, le nœud de cette loi, c'était que si vous faisiez des liens sur votre site, sur d'autres sites qui contenaient du contenu illégal, pouvant faire offense ou tout ça, on pouvait vous faire fermer votre site.
Donc, oui, donc la fin de Facebook.
Voilà, il y a des trucs, quoi. Mettons Google, moteur de recherche, fait des liens vers d'autres sites. Je pense pour eux, c'est impossible de faire le tri. Et donc, moi j'arrive au tribunal, je dis ce site fait un lien vers ça me porte préjudice. Et donc, eux bloquent ce site en attendant le jugement, quoi, pour pas causer de tort aux ayants droit, quoi. Donc, c'est arrivé juste après ça. Donc, les gens ont un peu tiqué, quoi, juste après cette loi.
D'accord.
Question, non ? Bon. Alors.
Sur Mega Upload, en fait, je crois que j'ai lu, donc, comme tu dis, il n'y a pas eu de jugement, mais il y a quand même une implication d'un jury populaire pour juste décider que les apparences de charge sans débat contradictoire étaient suffisantes pour déclencher les arrestations. Alors ensuite, c'est des accords internationaux qui ont permis à d'autres juridictions que les États-Unis d'aller arrêter ou saisir des serveurs, par exemple, dans d'autres pays qui ont des accords avec les États-Unis sur ce genre d'enquête, donc pour conspiracy aux États-Unis, donc pour association de malfaiteurs en France.
Donc pour rebondir sur SOPA, donc on a en ce moment toute une série de lois qui sont SOPA, on a l'ACTA, PIPA et l'OPSI qui est sorti dernièrement. Donc là pour aujourd'hui, je vais commencer par vous parler un peu d'ACTA. et je parlerai peut-être d'autres fois de ces autres lois au nom barbare. Donc ACTA, on en entend mais pas du tout parler, alors que ça nous concerne directement. C'est un accord commercial anti-contrefaçon, donc qui va traiter en fait tout ce qui est produits contrefaits, les brevets, les médicaments génériques et les droits d'auteur sur Internet. Alors c'est un accord mondial qui a été négocié depuis 2007, vraiment en douce et secrètement, à chaque fois dans des pays différents. Et en fait, en douce, parce que chaque fois que ça a été discuté dans un pays, personne n'a été prévenu. On a su que ça avait été traité après la réunion. Donc la dernière fois, c'était au Japon, ben on l'a su après, quoi. Et ces accords sont tellement secrets que en fait le Parlement européen a fait des motions pour en fait qu'ils rendent publiques toutes les infos sur ces accords. Donc voilà, cet accord mondial il a été négocié alors qu'on a déjà en fait des institutions qui s'occupent de la propriété intellectuelle. On a par exemple l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui dépend des Nations unies et dont c'est le but, tout ce qui est contrefaçon. Par exemple, il n'y a pas de page officielle de cet accord. Et même une députée européenne, Madame Gallo, qui en fait devait défendre cet accord, elle avait tellement rien à dire et tellement rien à rendre public qu'elle a fait un lien dans son rapport sur Wikipédia. Donc moi-même, je m'appuie sur Wikipédia là pour en parler. Donc sur le pad d'ailleurs, j'ai mis des liens vers cette page et d'autres pages.
D'accord. Donc pourquoi monter une structure juridique sur quelque chose qui existe déjà et en plus absolument pas communiquer dessus et
tenir, non, mais en fait, c'est fait avec des représentants nationaux, je sais pas qui. Et des groupes d'intérêt, donc bon, j'imagine des industriels, des gens qui ont intérêt à que cet accord soit passé. Donc les seules infos bien concrètes qu'on a eues, c'est grâce à Wikileaks. Mm-hmm. Donc là, on a vu qu'il y avait certaines mesures, donc je vais les citer. Il y avait la possibilité aux douaniers de fouiller les portables, les lecteurs MP3, les téléphones, à la recherche de copies pirates. Donc ça, ben, c'est une atteinte à la liberté. Quand on va à l'aéroport, un douanier va venir regarder son portable, ses photos de famille, je ne sais quoi. L'obligation de coopération des FAI, c'est les fournisseurs d'accès Internet. Donc ça aurait été la divulgation d'informations des clients et mettre en place des outils qui permettaient de restreindre les accès et de contrôler tout ce qui était copie privée. Et sur ça, il y a un Parlement européen, un député européen qui s'appelle François Castex, qui en gros, il a dit, mais c'est un peu n'importe quoi, ça va à l'encontre de la neutralité du réseau. C'est en gros, c'est comme si le facteur, en fait, quand il nous distribue le courrier, ben, il ouvrait les paquets pour voir ce qu'il y avait dedans, quoi. Bon, si on imagine ça, si on trouve ça horrible pour le courrier, ben, c'est la même chose pour les fournisseurs d'accès. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus triste, les médicaments génériques. Donc en fait, on a plein de médicaments génériques qui sont produits en Inde et qui sont reconnus par de nombreux pays et approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Mais par contre, dans certains pays, en fait, ces médicaments génériques, ils ont des brevets qui sont encore en cours. Et donc quand ces médicaments ils vont être livrés depuis l'Inde, s'ils passent dans des pays en transit qui ont encore ces brevets, eh ben ils vont être arrêtés. Donc là, ben on imagine les pays du tiers-monde qui ont recours à ces médicaments génériques, ben on va leur dire ben non, désolé.
Oui, il y avait déjà eu une bataille là-dessus, notamment avec l'Afrique du Sud et les trithérapies contre le VIH. Mais l'Afrique du Sud avait gagné, il me semble. Donc bon, ça concerne peut-être juste les trithérapies.
Alors en fait, c'est dans tous les accords sur la propriété intellectuelle, donc pour les brevets sur les médicaments, Il y a toujours eu une clause dans, alors je sais pas, c'est dans le droit international, enfin sûrement dans des accords internationaux, qui dit que en cas d'urgence sanitaire, ben, un pays peut invoquer ce cas d'urgence pour, s'il n'y a pas assez de médicaments, les faire fabriquer ou les commander ou diminuer les prix parce que juste les gens vont mourir parce qu'ils n'ont pas le médicament. Donc il y a toujours eu cette clause là et il y a eu de grosses batailles donc historiquement il y a plus de 10 ans. Entre l'Afrique du Sud où le sida est un gros problème et l'industrie pharmaceutique américaine, et donc l'Afrique du Sud a invoqué ce droit, tout comme le Brésil, je crois, un petit peu après. Et évidemment, immédiatement, les industries pharmaceutiques ont traîné devant les tribunaux le gouvernement sud-africain en disant non, vous n'avez pas le droit de les fabriquer, vous n'avez pas le droit de baisser les prix, c'est du vol, comme d'habitude. Quoi. Donc ça, c'est du droit préexistant depuis très longtemps. Et c'est juste sa mise en œuvre où les industries pharmaceutiques ne se sont pas donné un très beau rôle en allant critiquer des actions de gouvernement qui est, dans ce cas-là, essayer de sauver des vies de leurs citoyens.
C'est eux qui décident quand est l'urgence ou pas, quoi.
La question, c'est toujours un texte de loi, donc un accord international, et dans l'accord, il y a les États ont le droit, en cas d'urgence sanitaire, de machin chose. Après, qu'est-ce qui est une urgence sanitaire? Jusqu'où va ce droit-là? Quand il y a des gens qui ont du temps et de l'argent et des avocats, ça peut durer longtemps comme définition.
Ouais, enfin, bref, c'est lamentable, de toute façon, quand on sera d'accord sur ça. Donc, après, deux autres points. Sanctionner le contournement des DRM. DRM, pour faire simple, en fait, c'est des dispositifs pour protéger un CD, mettons. On en avait souvent parlé à un moment donné où ils avaient mis des copies de protection sur les CD. Et les gens les achetaient, les mettaient dans leur autoradio de leur voiture et ça, ils n'arrivaient pas à le lire.
Ah oui.
Donc ça avait fait beaucoup de boucans et en fait ça va plus loin, c'est même pas les contourner, c'est aussi écrire des logiciels qui s'appuieraient sur des sources libres pour pouvoir lire ces formats-là. Donc ça va à l'encontre de tout ce qui est logiciel libre, quoi. Et enfin, la sanction sur la suppression des métadonnées. Alors qu'est-ce que les métadonnées? C'est en gros, mettons, si je prends une photo avec mon appareil, un Canon, je ne sais pas quoi, et bien derrière, ça ne va pas être visible sur la photo, mais dans le fichier, en fait, il y aura ce qu'on appelle des données cachées, et qui, y aura, mettons, quand a été prise la photo, à quelle heure, le type d'appareil photo. Donc en gros, ça, pour tout ce qui est musique et vidéo, ça permet en fait de tracer où est partie ma vidéo. Donc si on l'enlève, après, on n'aura plus de possibilités de tracer où va la vidéo.
D'accord.
Oui, une illustration sur les métadonnées. L'entreprise Free a eu pendant longtemps, a envoyé des documents légaux, alors sous forme de dossiers de candidature ou des choses comme ça. Et dans les métadonnées de ces documentales-là, ils avaient mis auteur Singus dans un garage ou des petites choses comme ça. Donc, quelques sites d'information sur le web avaient repéré ce genre de petites choses amusantes, mais ça peut servir aussi à ça.
Ouais, c'était quoi l'histoire des Singus dans le garage déjà?
C'est la quadrature du net. C'était un commentaire de je ne sais plus quel député ou ministre qui disait c'est encore Singus dans un garage. Et donc c'est devenu une bannière évidemment sur internet réutilisée à toutes les sauces. Et donc y compris par Free.
J'ai fini de parler d'ACTA. Donc c'est ce qui va nous arriver. Assez récemment, puisque même si ACTA passe pas, on a déjà l'OPCI, il y a SOPA, SOPA pour les Américains qui arrivent, et ils sont arrivés à contrer SOPA, mais il y a PIPA qui arrive. Bon, je parlerai un peu de la définition de tout ça à une prochaine émission, mais on a déjà en France l'OPCI qui est passé dernièrement.
D'accord. On s'écoute un peu de musique?
Allez.
Ouais.
Tu voulais écouter quelque chose?
Alors, c'est Lisa Hannigan et la chanson c'est Knots.
Allez, c'est parti.
It was early in the morning, we were sitting on the stoop. A wheel away was snarling, and I thought that I would too.
sputter to a spark. I am a borrower in Linda of the law. I walk away asleep and chalk an outline on the sea. The shadow play of whiskey talk, a heavy den you dream.
Toujours sur Canal Sud, c'est la chronique Le Beat et le Couteau, et on va continuer.
Oui, juste rapidement, il y a un reportage qui est passé hier soir sur Arte, et qui va repasser en rediffusion, ou qui est visible sur le site d'Arte, qui s'appelle « Prêt à jeter », et qui en fait qui traite de l'obsolescence programmée. On en avait parlé à de précédentes émissions. Et en fait, l'obsolescence programmée, en fait, c'est designer un produit pour qu'il dure le moins de temps possible ou un temps précalculé. Donc, il est très intéressant et ça commence par parler en fait de tout ce qui était ampoule. Il faut savoir qu'au début, les ampoules, en fait, le reportage s'ouvre en fait sur la plus vieille ampoule du monde qui dure depuis 110 ans. Donc, elle a été en fait en 1901. Et en fait, au début, les ampoules duraient plus de 2500 heures et les industriels sont arrangés pour que la durée standard soit 2000 heures.
Mmh.
Donc il y a tout sur comment on en est arrivé là et qu'on achète des téléphones qui durent un an, tout ça, tout ça.
Les ordinateurs qui durent un an aussi.
Voilà, ouais, les portables, ça aussi, ils parlent des imprimantes. Si vous avez une imprimante en panne, ça ne sert à rien d'essayer de la réparer, vaut mieux en acheter une autre, quoi. Donc, sur le pad, j'ai mis les dates des rediffusions. Et aussi, il est possible de le voir en ligne sur le site d'Arte.
Arte plus 7. Donc, c'est ça aussi.
Ok, c'est ça.
Moi, j'y vais souvent parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai jamais le temps de voir autrement.
Donc, j'ai parlé d'une petite nouvelle sur la neutralité du réseau qui a été évoquée tout à l'heure. Donc là, ça se passe au Canada. Donc c'est tout récent, ça date de hier. Donc il y a un fournisseur d'accès internet canadien qui s'appelle Rogers, qui s'est fait taper sur les doigts par le gendarme des télécommunications canadien, la CRTC. Et donc la CRTC vient d'envoyer une lettre au directeur de ce fournisseur d'accès internet en lui disant qu'il ne respecte pas la neutralité du réseau qui est établi dans la dans le code des postes et communications locales. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec, donc, ils étant les autorités, ont travaillé avec Cisco, donc, qui est un vendeur d'équipements réseau, pour essayer de voir ce qui se passait quand ces fonctionnaires essayaient de faire du P2P. Donc, ils ont essayé de faire du P2P et ils se sont aperçus que ça marchait pas bien, ils avaient des ruptures de connexion, des débits pourris, alors que le reste du temps, ça marchait sur d'autres protocoles. Et donc, ils ont établi un constat, donc vous pouvez consulter sur le site du CRTC, on mettra les URL sur le pad. Et donc, il y a toute une série de misères techniques qui leur arrivent quand ils essaient ces gentils fonctionnaires, ils essaient de faire du P2P et ça marche pas. Et donc ils ont mis en demeure l'équivalent canadien Rogers de prouver que par A plus B qu'ils font effectivement pas de trucs ou qu'ils ont horriblement fait une erreur complètement involontaire sur le sujet, et donc de rétablir un accès non filtré. Bon, faut savoir qu'au Canada, il y a des éditeurs de jeux vidéo qui s'étaient plaints justement du comportement de Rogers, qui dégradait certains protocoles utilisés, certains ports utilisés par des jeux vidéo, etc. Donc il y a plein de gens qui se félicitent du fait que le gendarme canadien s'intéresse à la question, et donc nous, pauvres Français, on aimerait bien aussi que il y a la consultation de l'ARCEP jusqu'au 17 février, et donc ça serait bien que des citoyens impliqués répondent en disant « Regardez au Canada, les gens qui font des choses pas bien avec les paquets des gens, quel que soit le protocole, les autorités s'y intéressent, ont travaillé avec les vendeurs, ont fait les constatations, ont mis en demeure les opérateurs, donc est-ce que quelque chose comme ça pourrait arriver en France ?»
Ouais, parce que nous, pour tous ceux qui sont chez Free, aller sur YouTube... il n'y a pas de débit, c'est impossible de regarder une vidéo. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait chez Free ?
Alors, je ne sais pas si... Moi je ne suis pas chez Free, je suis chez tetaneutral.net et on n'a pas de problème avec YouTube. Mais il y a plusieurs raisons pour une baisse de débit. Donc, il peut y avoir ce qui se passe visiblement au Canada d'après les gendarmes, c'est que... Là, le fournisseur d'accès Internet regarde les protocoles utilisés et, en fonction du protocole, fait des choses pas gentilles. Certains protocoles, donc dans ce cas-là, du P2P. Et ensuite, il y a d'autres problèmes qu'on appelle la congestion. Donc, c'est juste les embouteillages sur les autoroutes de l'information. Et donc, les autoroutes de l'information entre deux opérateurs ou un opérateur et un fournisseur de contenu, c'est juste quelle est la capacité du câble ou évidemment des câbles qui sont tirés entre les deux parties. Et donc, ça, c'est augmenter ou diminuer ces capacités-là. Ça vient de négociations commerciales entre les gros opérateurs. Et donc là, Free peut avoir des problèmes vers tel ou tel site web sans que ça soit véritablement une atteinte à la neutralité du réseau. C'est juste que le tuyau il sature, et donc les services commerciaux de négociation des deux entreprises se tapent dessus joyeusement, et tant qu'ils n'ont pas trouvé un accord sur qui paye qui, sur la mise à jour de la capacité, ça rame pour tous les utilisateurs. Donc faut savoir que en France là, tout ça se passe c'est le milieu des affaires, entre portes closes, entre opérateurs privés, et donc le public n'a pas vraiment accès à ce genre de négociations, et les saturations de portes sont, on peut les deviner quand ça marche pas bien, mais elles sont pas visibles. Il n'y a que quelques opérateurs, donc il y a des opérateurs associatifs comme French Data Network, Data Neutral, etc., qui sont transparents sur ces questions là il y a un opérateur commercial qui s'appelle Nérim, où on peut voir en temps réel toutes les portes de collecte de Nérim, et on peut voir qu'elles saturent pas, donc la courbe fait des jolis ronds et c'est jamais ça tape jamais le plafond, mais c'est plus une exception que la règle dans les milieux commerciaux. Donc vos fournisseurs d'accès Internet qui vous représentent vers le reste de l'Internet, avec qui choisir de mettre des gros tuyaux, c'est pas évident actuellement, et le régulateur a ouvert une consultation au public, et vous pouvez émettre vos questions vers le régulateur à ce moment-là. Vous avez jusqu'au 17 février.
Sur le site
arcep.fr, arcep.fr.
D'accord, donc en attendant, on fait comme Xavier Niel a dit, le PDG de Free, d'aller sur Dailymotion.
Voilà. Donc Dailymotion qui a été racheté par Orange, et historiquement Dailymotion avait été plus ou moins coupé par Neuf. Donc un jour, bon, je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'anecdote, mais donc le PDG de Dailymotion est arrivé au travail le matin et il y avait beaucoup d'appels sur Dailymotion, ça marche pas. Bon, les serveurs marchaient. Il s'est aperçu qu'un tiers des Français pouvaient pas accéder à Dailymotion et que ce tiers-là était tous chez l'opérateur Neuf. Donc ce qu'ils ont fini par faire, alors qu'ils étaient en train de négocier justement une augmentation de porte de capacité avec Neuf, ils ont redirigé tous les abonnés de Neuf qui essayaient d'accéder à Dailymotion sur une page web toute simple, statique, avec « il y a un problème chez Neuf, le numéro du support technique de Neuf est le bip 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 » et une bonne heure après, le PDG de Neuf a rappelé le PDG de Dailymotion en disant « mais il se passe quoi là, notre standard explose, ça nous coûte plein d'argent » et bon, ils ont résolu leur problème d'interconnexion. Et un petit peu après, Dailymotion a été racheté par Orange. On passe aux annonces.
Ouais, alors les annonces de la semaine, on va commencer par la première AG de tetaneutral.net qui aura lieu lundi prochain.
Alors c'est lundi, donc vers 17h-18h, il y a une visite des locaux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, au 12 rue Ferdinand Lassalle. Bon, tout est détaillé sur tetaneutral.net. Ensuite, il y aura un repas dans un resto du coin, et ensuite l'assemblée générale formelle, donc là, pour fêter la première année de l'existence de tetaneutral.net.
Et donc ça y est, les accords sont signés, les abonnements sont ouverts ?
Oh, les abonnements sont ouverts. On a une dizaine d'abonnés à Saint-Gaudens, deux à côté d'Orium, et une dizaine sur Toulouse au niveau de l'accès Internet. Et on a plein de gens qui utilisent tetaneutral.net comme hébergeur pour leur site web, dont le pad du Tetalab est, je crois, là-bas. Le site web de Tout Libre, et qui est le groupe d'utilisateurs de Linux de Toulouse, est aussi sur tetaneutral.
Et TV Bruit ?
TV Bruit, pas encore. Alors qu'ils sont dans les locaux d'à côté, j'ai toujours pas eu le temps d'aller discuter avec eux pour faire plein de choses ensemble sur la vidéo et les hébergeurs.
Donc, autre annonce, c'est les jardins numériques qui auront lieu à Rennes la semaine prochaine, entre le 1er et le 4 février. Bon, les jardins numériques, c'est un festival de hackers avec un peu les mêmes thématiques d'impression 3D, de montage open hardware et de rencontres entre bidouilleurs. Donc voilà, ça aura lieu à Rennes la semaine prochaine et 5-6 personnes du Tetalab y vont aussi pour présenter ce qu'on fait ici à Toulouse. Ensuite, donc le Tetalab qui aura lieu ce soir à partir de 21h à Mixart Miris, comme chaque semaine. Donc vous pouvez venir nous voir et parler avec nous de ce qu'on a parlé aujourd'hui ou de vos projets de bidouillage.
Il n'y avait pas des questions sur le pad ?
Alors, sur le pad aujourd'hui, donc canalsup.tta.org, il n'y a pas eu de questions, il y a juste eu les auditeurs, il y a Yann, l'ami des poneys et Fou qui ont participé à le montage du pad. Donc, si vous allez sur canalsup.tta.org, vous pourrez retrouver un peu des liens sur les sujets dont on a parlé, et pas mal d'images par rapport à Mega Upload, SOPA, ACTA, et voilà, sur les DRM.
Très bien, et bien merci beaucoup, et à dans 3 semaines alors.
Merci, à dans 3 semaines.
Ça marche, allez, on se quitte, c'est la